Espace 2. Nectar, Nicolas Julliard.
Avec Fatmir Blakaï en régie et à mes côtés Laurence Froidevaux. Bonjour Laurence.
Bonjour.
À quoi sert l'art quand on est condamné à mort? Eh bien, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui à l'occasion d'une exposition à découvrir ces jours à Lausanne. On va en parler juste après ces quelques brèves du monde culturel. Pro Helvetia vient de dévoiler le nom de son nouveau directeur. Il se nomme Philippe Bischoff. Il a été choisi parmi 104 candidats pour prendre la succession d'Andrew Holland au 1er novembre prochain. Né à Bâle en 1967, Philippe Bischoff a débuté sa carrière en tant qu'assistant metteur en scène au Théâtre Basel. Il a ensuite dirigé le théâtre de Göttingen tout en réalisant des mises en scène pour divers théâtres suisses et européens. Et à Lucerne, il a créé le Südpol, un des centres culturels les plus dynamiques du pays. Au bénéfice d'une formation de management culturel, l'heureux élu dirige depuis 2011 les affaires culturelles du canton de Bâle-Ville et il préside depuis le début de l'année la conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles. Bravo à lui. Jean-Michel Jarre, lui, se bat pour la mer morte. Le musicien électro, ambassadeur de l'UNESCO, a décidé de se produire au pied de la forteresse israélienne de Masada pour alerter l'opinion sur le réchauffement climatique qui menace notamment la mer morte d'assèchement. Un concert programmé ce jeudi est destiné à durer toute la nuit avec la participation de DJ israélien et français est organisé. 10 000 billets seront mis en vente. Une affluence qualifiée d'intimiste par celui qui détient le record du plus grand nombre de spectateurs pour un de ses shows à Moscou qui avait réuni quelques 3 millions de personnes. Le geste est symbolique mais l'histoire ne dit pas si le système électrique gourmand en énergie du musicien sera alimenté par des panneaux solaires. On peut en douter. Enfin, on a appris la disparition du poète russe Evgeny Yevtushenko, mort le 1er avril à Tulsa dans l'Oklahoma, où il enseignait depuis des années. Il avait 84 ans. Farouche opposant à Staline, Yevtushenko est surtout connu pour son poème Babi Yar, écrit en 1961 à la mémoire des 34 000 juifs massacrés par les nazis en Ukraine. Une réalité historique pratiquement effacée à l'époque par le pouvoir soviétique. Un an plus tard, en 1962, le compositeur Dmitri Shostakovich basait toute sa 13e symphonie sur des textes d'Yevtushenko, symphonie pour chœur, soliste et orchestre dite Babi Yar. Le chœur et l'orchestre royal de Liverpool dirigé par Vassili Petrenko dans cet extrait de la 13e symphonie de Shostakovich, le début, symphonie Babi Yar, pour saluer la mémoire du poète Yevgeny Yevtushenko, disparu samedi dernier à l'âge de 84 ans. Tout autre chose maintenant.
Cet environnement est fait pour te casser, mentalement, émotionnellement. Nous n'avons pas de contact avec les visiteurs, on leur parle à travers cette vitre. On ne peut pas aller à l'église. On ne peut pas aller à la promenade en groupe, on n'a pas droit à la télévision. Ce lieu est fait pour nous casser. En même temps, c'est à toi, en tant qu'individu, de résister. La seule chose qu'on a, c'est du temps. On en a beaucoup. Beaucoup plus que vous. C'est à nous d'en faire quelque chose de positif. On peut lire des livres, on peut s'éduquer, passer des examens, étudier la Bible. Certains écrivent des livres, certains font de l'art. Le meilleur qu'on m'ait donné en arrivant ici, dès que les gars ont su que c'était la première fois que j'étais enfermé, c'est de trouver un truc positif à faire. Sinon, on devient fou. Et c'est vrai, il faut garder son esprit vif et occupé sur des choses positives, créatives, sinon on perd complètement la boule.
Le témoignage d'Abel, condamné à mort aux États-Unis pour parler du sort de ses prisonniers en attente de la mort dans ces quartiers de haute sécurité des prisons américaines. Certains font de l'art, nous dit-il, pour ne pas perdre la boule. Et bien, on va en parler justement aujourd'hui avec vous, Laurence Froidevaux. Une exposition singulière a ouvert ses portes la semaine dernière à Lausanne, dans un lieu alternatif. Elle présente près de 200 dessins de détenus.
Exactement, près de 200 dessins, puis aussi quelques collages, des bricolages, du papier plié notamment, tous fabriqués par des détenus et recueilli par une association d'ici, Inmates Voices, qui, comme son nom l'indique, veut donner une voix et faire entendre celle de ces détenus condamnés à la peine de mort, à travers, par exemple, des échanges de lettres, mais aussi des tas d'autres projets artistiques.
Dont nous allons parler avec vos deux invités. Joséphine Maillefer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice, membre active de cette association Inmates Voices. Et puis Noémie Arnold, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes historienne d'art, commissaire de cette exposition intitulée Couloir. Comment est-ce qu'on dit Couloir. Bonjour à vous deux. Noémie Arnold, que racontent ces dessins que vous exposez?
Alors, c'est vrai que ces dessins racontent quelque chose. Ils racontent pas tellement le milieu carcéral, ils parlent plutôt d'autre chose, de ce que les détenus rêvent, inventent, imaginent. Et on retrouve quelques classiques scènes de mains agrippées à des barreaux, mais sinon, c'est beaucoup de scènes qui sont de paysages qui se déroulent en dehors de la prison.
Il y a à la fois des dessins qui représentent l'enfermement et d'autres qui, à l'inverse, représentent une certaine forme d'évasion, de liberté.
De liberté, tout à fait, puisque les détenus vivent de ces dessins. Les témoignages que l'on reçoit d'eux sont très clairs et ils cherchent vraiment à s'échapper par ces dessins. Et ces dessins, ils le disent, donnent du sens à leur vie, donnent du sens à leur enfermement. Ils parlent aussi de folie et disent justement que cette activité créatrice leur permet de garder les pieds sur terre, de rester ancrés dans le présent. Et de ne pas devenir fou, alors que c'est apparemment quelque chose qui menace les détenus.
Oui, dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est ce que nous disait Abel. Et il disait, tout ce qu'on a ici, c'est du temps, beaucoup de temps. Est-ce que du coup, ça laisse le temps aussi à certains de développer une vraie pratique artistique avec des dessins qui sont intéressants sur ce plan-là, Noémie Arnold?
Alors, c'est sûr que le temps, certains ont su le mettre à profit, elles l'ont mis très intelligemment à profit. On a un témoignage d'Overton, un des détenus, qui dit justement qu'il essaye de se mettre dans la position des gens libres qui souhaitent être isolés pour un temps, pour mener à bien un projet artistique. Et c'est vraiment dans cette ligne-là qu'il s'inscrit, puisqu'il attend que la prison soit calme, il attend la nuit. Et c'est vraiment entre minuit et 10 heures du matin, il a un rituel très précis où il se fait du café, s'assied à même le sol et prend son stylo Bic, un stylo noir avec lequel il écrit des textes à son correspondant et il dessine avec une technique bien particulière des milliers de petits points qui forment des paysages, des créations, des figures qui ont une réelle valeur artistique. Et c'est peut-être un des seuls de ces 40 artistes qui travaillent en prison. Vraiment, il a une valeur artistique, ce qui est relativement rare hein, parmi ces dessins. Ce n'est pas l'essentiel et ce n'est pas l'intérêt de cette exposition. Ouais.
Ça peut paraître aussi étonnant lorsqu'on est condamné à mort et que l'horizon est véritablement bouché. On a entendu ce témoignage tout à l'heure, Abel qui disait on peut s'instruire. On va dire mais à quoi ça sert de s'instruire si on va mourir? Pour vous, Joséphine Maillefer, qui est d'abord musicienne, membre de cette association, qu'est-ce que ces dessins évoquent pour vous et qu'est-ce que ça vous fait tout simplement quand vous les regardez?
Bonne question. Il y a beaucoup de dessins différents, alors beaucoup d'émotions différentes, mais je suis clairement touchée par les dessins qui montrent la violence que subissent ces prisonniers qui sont enfermés. Je pense à justement au dessin d'Overton où on voit une main, un corps, on sait pas très bien, mais on comprend direct. En fait, ça me fait un peu le même effet que des dessins à l'art brut. On comprend pas, mais on est touché. Et ça, c'est un peu comme ça que je vois une partie de ces dessins. Et puis, il y en a vraiment d'autres sortes, justement des plus libres. On a des séries de colibris. Alors, c'est très joli. Et puis, c'est très coloré. Et en effet, on se demande comment des colibris peuvent sortir de là. Sinon, un autre dessin auquel je pense comme ça, c'est un dessin qui a de l'humour. En fait, moi, j'y suis très sensible. Et puis, je trouve... Voilà, un dessin avec de l'humour noir, on l'aura deviné, qui peut aussi me parler bien.
C'était compliqué pour vous de faire sortir tous ces dessins. Ce sont des dessins qui étaient destinés à des correspondants, qui est aussi un des buts de l'association Inmate Voices que vous avez dirigé pendant longtemps et que vous avez fondée. C'était compliqué à mettre sur pied une exposition de ce type.
Voilà, alors en fait c'est par l'association LifeSpark qui met des correspondances, qui propose des correspondances entre personnes libres et enfermées, qu'on a pu avoir ces dessins. On leur a demandé donc aux personnes libres qui ont correspondants de nous envoyer les dessins qu'ils avaient reçus de leurs correspondants. C'est pas du coup directement l'association Inmate Voices qui a créé ces correspondances, mais on a pu comme ça récupérer, parce qu'en effet c'est compliqué avoir contact avec un détenu. Là ça nous donner en lien, sinon par les avocats des fois on peut récupérer quelques papiers, sinon c'est toujours assez compliqué. Donc là ça a été des centaines d'échanges épistolaires pour avoir recueillir tous ces dessins de, on l'a dit, 40 artistes différents, 200 dessins.
On peut ajouter aussi, comme le disait Evelyne Giordani, membre du comité LifeSpark, qui avait beaucoup d'émotions, puisque ça fait plus de 20 ans que ces dessins sont rassemblés, que les correspondants accumulent ces dessins, et se demandaient ce qu'ils allaient faire avec ces dessins, et avaient le projet un peu fou de les rassembler une fois pour les présenter et les exposer au public. Et voilà, 20 ans que ces dessins s'accumulent, 2 ans que ce projet a été initié, et maintenant, c'est chose faite. Les dessins sont rassemblés et peuvent être vus par le public.
Ce que je comprends en vous écoutant, Noémie Arnold, c'est que ces dessins, pour les prisonniers qui les réalisaient, n'étaient pas forcément destinés à être montrés, puisqu'ils n'étaient pas, ils ne savaient pas forcément qu'ils allaient avoir droit à une exposition de leurs dessins. Donc ce sont avant tout des sortes de prolongements de la correspondance intime, on peut dire ça comme ça ?
Tout à fait, ces dessins s'inscrivent clairement dans une relation de correspondance, une relation d'amitié. Il y a ces correspondances deviennent des correspondances d'amitié et ils sont adressés à une personne précise. Maintenant, évidemment, les correspondants ont demandé aux détenus s'ils étaient d'accord de montrer leurs œuvres. Et oui, bien sûr, certains sont même d'accord de les vendre. Ils aimeraient même en produire plus. Overton, par exemple, pour revenir à Overton, propose au public de faire des copies de ses créations ou de créer. Donc il y a vraiment cette recherche de visibilité et de reconnaissance, être reconnu pour autre chose qu'un acte qui a été condamné.
Joséphine Maïfer, quel est le but que vous poursuivez avec cette association ? On imagine bien que ça peut faire du bien à ces condamnés à mort de savoir que leur dessin voyage. On peut aussi être un peu réticent en se disant, mais enfin, pourquoi est-ce que vous leur consacrez autant d'énergie et de temps ? Il y a aussi en Suisse, que sais-je, des retraités qui vivent dans la solitude. Enfin, il y a un peu deux questions à une. À quoi ça leur sert à eux ? Et à quoi ça vous sert à vous ? Puisque je sais que vous échangez aussi depuis nombreuses années avec un détenu condamné à mort aux États-Unis.
Ouais. Alors, à quoi ça leur sert à eux ? À sortir de cette prison, finalement. C'est une manière de leur permettre d'exister. Une chose que m'a écrit mon correspondant, qui est à la base, en fait, de cette association, c'est je ne me sens pas exister, personne sait que j'existe, donc j'existe pas. Et ça m'a touchée, et je me suis dit, voilà, là, moi, je peux faire quelque chose en tant que libre et artiste, je peux lui donner une voix. Et puis, donc, l'idée de le faire exister par ma voix, par l'art, ça, c'est ce que ça peut leur apporter à eux. Et puis, ce que ça m'apporte à moi, avoir l'impression de faire les choses... de faire les choses bien, de faire ce qui me semble, vivre de la manière que j'ai envie de vivre. Et puis je le fais à travers ce projet, mais je le fais aussi dans mon moyen de transport, le vélo. Je le fais aussi. Enfin voilà, j'ai besoin d'avoir une vie cohérente. Et puis comme ça, je m'endors paisiblement le soir. Et puis oui, bien sûr qu'il y a des voisins qui ont aussi peut-être qu'ils souffrent de solitude ou quoi que ce soit, mais ça n'empêche pas. J'espère que je suis aussi gentille avec mes voisins.
Est-ce que cette correspondance que vous entretenez avec un détenu, comme l'évoquait Laurence Froidevaux, c'était le point de départ de toute votre démarche à travers Inmates Voices?
Oui, ouais, clairement. J'avais pas eu de lien ou de quoi que ce soit avec des prisonniers, ça, c'est vraiment arrivé comme ça. Un jour, Tania, qui a aussi fondé cette association avec moi, m'a parlé de sa correspondance. Je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion, enfin, ça me parle, l'occasion de faire quelque chose. Mais la prison, j'y connaissais rien. La peine de mort, j'y connaissais rien. J'étais même pas ni pour ni contre. À réfléchir d'un peu plus près, je trouve qu'il y a quand même quelques aberrations qui tournent là autour. Mais voilà, je suis tombée comme ça là-dedans, puis... Maintenant, bah, c'est l'idée de faire ce projet. Mais j'ai aussi d'autres projets musicaux qui sont pas liés à des prisonniers. C'est pas toute ma vie. C'est simplement un projet que je trouve mérite d'y porter attention.
Vous êtes même allé jusqu'à... Vous écrivez à votre correspondant, Roy, depuis plusieurs années. Et je crois savoir que vous êtes même allé le voir. Vous avez fait le voyage.
Oui.
Comment ça s'est passé? Racontez-nous.
Alors, c'était un long voyage parce que j'ai décidé d'aller en bateau. Alors, j'ai pris le train en bon bout, le bateau en autre bout, 13 jours sur la mer, le temps de se réjouir d'arriver. Et puis,
où se trouve votre correspondant?
Il est en Floride. Je crois que c'est le... Je suis pas très forte en statistiques de peine de mort, mais sauf erreur, c'est le deuxième état où il y a le plus de condamnés à mort.
Avec la Californie, sauf erreur.
Alors, c'est bien possible. Je sais qu'il y a le Texas qui est aussi souvent en haut des listes. Enfin, voilà, c'est pas... voilà, pas l'état très sympa à ce niveau-là. Et puis, moi, je suis arrivée en ville. Personnellement, ça m'a pas beaucoup plu. La campagne, heureusement, c'était un peu plus verdoyant, un peu moins de fast-food. Et puis, voilà, la prison, plein de checkpoints, de contrôles pour pouvoir arriver enfin dans une espèce de cafétéria comme ça, des tables et puis des gens qui viennent voir leur père, leur frère, leur oncle, leur ami. Et puis on a pu passer comme ça plusieurs heures, deux jours de suite, et parler de tout, de rien, comme des amis. Et voilà, ensuite repartir, refaire le chemin dans l'autre sens.
Vous avez été frappé par ce qu'il a pu peut-être vous dire ou témoigner de sa vie quotidienne?
Dans les lettres, oui, ce que j'en retiens comme ça, c'est que c'est 23 heures sur 24 enfermées. C'est des conditions vraiment très difficiles. La cellule fait 2 mètres sur 3. Les douches, c'est 2 fois par semaine. C'est des douches froides. Pas de contact humain, quelque chose qui lui manque beaucoup. Sauf quand on lui passe les menottes. C'est le seul moment où il peut toucher... comme ça, de la peau humaine, voilà, un environnement vraiment glacial qui, on peut se poser la question si on est encore dans les droits de l'homme avec ces incarcérations en Floride qui sont moyennes de 20 ans avant que l'exécution ait lieu.
Conditions très difficiles. Donc on va écouter un autre témoignage. Je vous propose d'entendre celui de Luis Castro qui raconte une journée type dans une prison américaine.
On me sert le petit déjeuner à 3 heures du matin. Alors je me lève. Bon, moi, en général, je suis déjà réveillé. Je suis déjà en train de m'occuper. Je mange le petit déjeuner. Pendant la journée, quand c'est très bruyant... Bon, moi, je suis habitué parce que j'ai des enfants. Donc j'ai l'habitude de ça et du bruit. Ça fait toujours du bruit, les enfants. Donc là, je peux quand même dormir. Ensuite, je vais à la promenade et je vais à la douche. En général, je vais à la douche, je reviens et je dors. Et puis, il nous redonne à manger, le dîner, à 10 heures du matin. Moi, je le garde pour plus tard, je me recouche. Je me relève vers 17 heures lorsqu'ils servent le souper. C'est là, en fait, que ma journée commence. Je me fais une tasse de café, je me lave le visage. À ce moment-là de la journée, tout le monde est parti ou est enfermé dans sa cellule. On entend peut-être quelques douches, alors j'écoute mes émissions, des talk shows, des émissions éducatives et des infos. Il y a toujours des informations sur les couloirs de la mort. Alors j'écoute tout ça. Et puis je dessine et je lis. C'est pas très excitant, mais le temps passe. La nuit, tout est calme et serein. Personne ne te dérange, tout est paisible.
« Voilà un témoignage d'un autre prisonnier des couloirs de la mort, Luis Castro, avec ses horaires complètement aberrants qu'il nous raconte ici, Joséphine Maillefer. Ça correspond un peu au type de témoignage que vous avez recueilli à travers notamment les lettres, les correspondances.
Ouais. Oui, alors mon correspondant dit en effet que c'est des horaires absurdes où voilà, le déjeuner c'est 5 heures du matin. Donc il faut se réveiller à une heure stupide pour prendre son déjeuner. Et puis le dîner c'est comme ça. On donne le pain le matin pour toute la journée, ou le pain d'hier, enfin je sais pas, c'est du pain sec, c'est tout, des trucs qu'on comprend pas très bien. On se dit on pourrait faire mieux, mais apparemment là l'idée c'est pas de faire quelque chose de sympa, c'est de les punir non seulement par l'enfermement, mais encore en les traitant pas très humainement.
On verra tout à l'heure d'ailleurs avec un professeur de criminologie si cette sanction a du sens, mais j'aimerais revenir sur l'accrochage avec vous, Noémie Arnold, historienne de l'art. Je rappelle que vous avez monté cet accrochage qui est à l'Espace Saint-Martin à Lausanne jusqu'au 12 avril. Est-ce que le fait de monter cet expo a changé votre regard à vous sur la détention et sur ces hommes condamnés à mort?
Alors, c'est pas directement en lien avec l'accrochage, enfin un accrochage plutôt compliqué techniquement à mettre en place dans ce lieu, mais pour ce qui est de mon regard, moi je suis aussi comme Joséphine, moi je suis arrivée un petit peu plus tard dans le projet, pas non plus d'a priori particulier sur cette question-là, j'y avais pas vraiment réfléchi avant, mais moi où ça me touche personnellement, c'est peut-être de m'interroger sur ma violence à moi, comment est-ce que je gère mes impulsions, mes émotions, et je me rends compte que finalement, alors je pense pas que je suis une criminelle potentielle, mais je me demande d'ailleurs si, enfin, je pense pas qu'il y ait de profil type, et je pense que j'ai un jugement beaucoup moins fort sur ces personnes, et je me sens plus proche d'elles, peut-être pour avoir vu leur dessin, en me disant, mais, je peux comprendre qu'il y ait un excès, qu'il y ait une fois, quelque chose de terrible qui se passe, et comment ensuite on juge une personne une fois qu'elle a fauté. Est-ce qu'on doit payer cette faute chaque jour? Est-ce qu'on doit ressentir de la culpabilité toute sa vie? Comment est-ce qu'on considère l'autre une fois qu'il a fauté? Est-ce qu'on se résume seulement à son acte ou ses actes, ou est-ce qu'on peut être quelque chose, quelqu'un d'autre au-delà de ça? Et je trouve que la prison qui est censée les museler, hein, réduire au silence ces détenus, c'est un pied de nez assez intéressant, puisque c'est cette détention qui a permis à certains, pas à tous, mais à certains détenus de devenir créatifs, de prendre leur vie en main et de créer quelque chose qui est beau ou pas, mais qui est touchant et puis qui est vrai, qui est authentique. Et là, ça me touche beaucoup.
Et ce qui est très particulier dans cette démarche, évidemment, c'est de réunir dans un même espace des gens, des artistes, on peut dire, qui vivent chacun isolément dans leurs cellules, à différents endroits des États-Unis. Est-ce que quand vous confrontez justement tous ces dessins, toutes ces productions artistiques de ces prisonniers, Noémie Arnold, en tant qu'historienne d'art, est-ce que vous avez le sentiment que ça crée un type d'art particulier lié évidemment à cet enfermement? Joséphine Maillefer faisait référence à l'art brut. Est-ce que vous voyez comme ça des correspondances avec peut-être d'autres types d'enfermement ou d'autres types d'art dans l'histoire?
Alors la question de l'art, de la catégorie artistique, on aime bien les tiroirs, enfin on fait des séries, des mouvements, des catégories d'art. On ne peut pas parler d'art brut dans la mesure où ce sont des créations qui sont pleinement conscientes, d'autant plus qu'elles ont un destinataire. Les détenus signent leurs œuvres, ils en sont conscients, ils en sont fiers, ils les aiment et ils souhaitent qu'elles soient vues. Donc on n'est pas du tout dans une démarche qui touche à la folie ou à l'art brut, dans le sens où les artistes d'art brut créent pour eux-mêmes, pour personne, oui. Parfois détruisent leurs œuvres. Donc on n'est pas dans l'art brut. Par contre, on n'est pas dans l'art libre non plus, dans la mesure où ce sont des personnes tout à fait autodidactes. Elles n'ont pas suivi ce n'est pas une carrière professionnelle. Elles n'ont pas suivi de cours. Elles créent quand même pour elles. Donc on est dans une catégorie un petit peu à part de l'art.
J'aimerais vous faire écouter un troisième et dernier témoignage, alors non pas celui d'un détenu cette fois, mais celui du criminologue André Kuhn, qui est professeur de droit pénal, avec cette question toute simple, toute banale: que disent les études sur l'efficacité de la peine de mort? En gros, est-ce une peine dissuasive?
Alors c'est là que la science fait des découvertes très intéressantes, puisque du temps des siècles des Lumières, aussi bien Montesquieu que Beccaria remettaient en question la peine de mort en disant qu'elle pourrait éventuellement pervertir l'esprit des gens qui voient l'État infliger cette sanction ultime. Jusque-là, ça n'était que des hypothèses, mais depuis la fin du XXe siècle, on sait que c'est vrai, puisque nous avons d'abord pu observer que les États qui connaissent la peine de mort ont des taux de criminalité violente plus élevés que les États qui ne la connaissent pas. Alors c'est une partie de la démonstration, mais la deuxième partie de la démonstration qui est la plus intéressante, c'est celle qui veut que dans les États qui ont réintroduit la peine de mort dans les années 90, il y a eu une augmentation du nombre de meurtres ou de délits de crimes violents par rapport à avant. C'est-à-dire qu'on a pris 10 ans avant la réintroduction, 10 ans après, et on observe qu'il y a une augmentation, et tout ça sous contrôle de tous les États voisins, je parle ici des États-Unis, hein, donc sous contrôle de tous les États voisins qui n'ont rien changé dans leur droit des sanctions et dans lesquels le nombre de meurtres n'a pas augmenté.
Donc si je vous comprends bien et je vous suis bien, André Kuhn, les États qui pratiquent la peine de mort voient leur taux de criminalité augmenter.
Oui, c'est ce qu'on appelle le phénomène de brutalisation, c'est-à-dire le phénomène de l'État qui montre l'exemple. L'État veut être un exemple de manière générale, lorsqu'il donne 5 semaines de vacances pour que le privé suive, lorsqu'il paye les femmes comme les hommes pour que le privé suive, et lorsqu'il exécute des gens, eh bien, il montre une manière de résoudre des conflits, une manière violente de résoudre des conflits qui ensuite se répercutent chez les gens eux-mêmes. Et dans les États dans lesquels la peine de mort existe, les gens ont une idée faussée de la légitime défense, puisque lorsqu'un cambrioleur s'introduit chez quelqu'un et que ce quelqu'un le prend sur le fait, eh bien il a plusieurs possibilités. Il a la possibilité de tenter de le faire fuir ou bien il peut lui tirer dessus. Eh bien on observe que dans les États qui connaissent la peine de mort, il y a davantage cette réaction de tuer soi-même, puisque l'État règle ces conflits de cette manière-là, pourquoi pas moi en tant que citoyen ? Ça désinhibe le citoyen.
Démonstration par les statistiques, donc, avec André Kuhn, professeur en criminologie et droit pénal, à votre micro, Laurence Froidevaux. Joséphine Maillefer, quand vous entendez ce témoignage, vous nous disiez tout à l'heure qu'au départ de cette association Inmates Voices, vous ne saviez même pas forcément si vous étiez pour ou contre la peine de mort. J'imagine que depuis, vous avez fait votre choix. Est-ce pour autant qu'à partir de tous ces témoignages, ces correspondances, ces échanges que vous organisez avec ces prisonniers dans les couloirs de la mort, est-ce que aujourd'hui vous pouvez dire que Inmates Voices a une vocation carrément abolitionniste ? Est-ce que c'est une association militante ?
À la base, on s'est dit, enfin, moi, j'avais pas très envie de dire on est contre ou on est politique ou quoi que ce soit, mais peut-être que, au fond, si on tranche, oui, enfin, clairement donner la parole à des prisonniers, c'est les considérer comme des humains, donc c'est pas forcément envie de les tuer au bout. Donc, oui, enfin, l'idée est contre la peine de mort. Après, on s'est pas déclaré comme ça. En tout cas, pas dans les statuts de l'association, mais on a en tout cas envie, c'est sûr, de faire réfléchir sur la punition et sur l'humain, comme Noémie l'a dit tout à l'heure, réfléchir sur comment on peut nous-mêmes gérer notre violence. Moi, c'est vrai que moi j'ai découvert finalement que ces prisonniers n'étaient pas des fous cinglés, mais la plupart c'était vous et moi qui ont fait n'importe quoi. Et puis voilà, on se trouve dans des mauvaises situations, on prend des mauvais choix, mais finalement on reste humain. Et puis ça, un petit peu que j'avais envie de mettre en avant. Et puis ces questions de punition aussi, on peut voir que suivant où on se trouve sur la planète, elles sont réglées différemment. En Afrique du Sud, en Amérique du Sud, il y a des endroits où on aura plutôt tendance à réinsérer la personne qui fait une faute plutôt que de l'exclure. Et voilà, se dire que la punition par l'isolement n'est pas forcée, c'est pas la seule solution pour résoudre les conflits.
Oui.
Pourquoi ces propos de détenus sont inspirants pour vous, Joséphine Maillefer ? Vous êtes membre de cette association, mais vous êtes aussi artiste, musicienne, vous avez fait d'autres projets artistiques, notamment un projet théâtral et un projet de chœur à partir de propos de détenus. Je me demandais ce qui vous touchait dans ces propos de détenus, ce qui avait à la fois de singulier et d'universel, qui peut parler à tout un chacun, qui vous a permis de faire des créations. Puis on entendra d'ailleurs dans un instant un petit extrait d'un projet musical que vous aviez fait avec ces détenus. Pas avec ces détenus, mais à propos de, avec ce premier matériau qui est les propos de Detinier.
Je crois que c'est le côté brut. Il n'y a pas de chichi. Voilà. Je dis ce que je pense. Je suis en tôle. Je suis dans la merde. Je sais pas. C'est tout. Tout est. Il n'y a pas de filtre. Et puis du coup, c'est un matériau. Je trouve qu'on peut transformer, qu'on peut mettre en valeur, qu'on peut développer dans un sens, dans un autre. Enfin, ça me plaît beaucoup. Justement, on a eu le projet sur des textes où plusieurs compositeurs ont mis en musique ces textes et chacun a pris un texte différent. Il y en a qui ont aimé plutôt des textes poétiques, il y en a qui ont pris des trucs plus brut, des témoignages, il y a vraiment de tout. Et puis moi, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'art brut, je trouve quelque chose qui touche directement ça.
Une authenticité, vous êtes d'accord avec ça, Noémie Arnold?
Moi, je suis pleinement touchée par ces projets musicaux, c'est comme ça que je suis entrée dans le projet d'ailleurs, et j'aurais aimé qu'on puisse intégrer plus de musique dans cette exposition. Finalement, ça n'était pas possible parce qu'on voulait pas faire un brut fond, mais vraiment, les créations musicales de Joséphine et des autres compositeurs vous prennent aux tripes et sont extrêmement touchantes. Ouais, vraiment.
Cette exposition, c'est Couloir à découvrir à l'Espace Saint-Martin à Lausanne jusqu'au 12 avril. On entend ici quelques notes d'une musique composée pour ce projet In Made Voices. Un mot peut-être sur ce qu'on entend ici, Joséphine Maillefer.
No One Knows, Spoon Jackson, qui se décrit comme le poète, Death Row Poet, le poète des couloirs de la mort. C'est là une poésie, vraiment pas, il parle personne ne sait d'où tu viens, qui tu es, une princesse, c'est assez abstrait, et du coup une musique un peu impressionniste, un peu des couleurs là-dessus.
Ah, je voulais écouter encore quelques secondes de ce cœur. Je vous remercie en tout cas toutes les deux, Joséphine Maillefer, présidente de l'association, ex-présidente de l'association In Made Voices, et Noémie Arnold, commissaire d'expo. Elle est à voir jusqu'au 12 avril. Est-ce qu'il y a une chance qu'elle circule, qu'elle devienne itinérante et qu'elle aille peut-être dans un autre canton?
Peut-être après quelques vacances, on aura la motive pour remonter ça. Mais là, c'était beaucoup de travail. On a peut-être entendu quelqu'un qui parlait à la Grange de Dorigny. J'avais contacté le musée de la Croix-Rouge avec espoir à Genève, mais pas eu de réponse. On verra.
Alors à voir en tout cas donc jusqu'au 12 avril à l'espace Saint-Martin à Lausanne, avec des horaires un peu particuliers je crois, Noémie Arnold.
C'est... plutôt en soirée et les week-ends. Donc la prochaine ouverture ce sera ce jeudi 6 avril de 17h à 21h, même chose le vendredi à partir de 5h, le samedi à partir de 14h, le dimanche aussi, et enfin on termine, et ça vaut la peine, venez voir le finissage le mercredi 12 avril avec une performance de Christelle Béchelet et un concert du duo Tempête.
Voilà, on note et puis on peut se renseigner sur le site dont on a parlé, inmatesvoices.com. C'est un lieu alternatif qui vaut aussi la peine d'être visité pour ça. Je précise que l'entrée est libre. Et petite précision encore, Nicolas, les deux témoignages de détenus entendus dans cette émission ont été recueillis par la journaliste Anne-Frédéric Widman et le dessinateur Patrick Chapat. Vous vous souvenez peut-être dans le cadre de leur exposition sur la peine capitale qui avait été présentée l'année dernière en Suisse. C'était une démarche un petit peu différente de la vôtre. Ils ont demandé à une vingtaine de condamnés à mort de raconter leur quotidien en prison à travers des dessins. C'était une exposition itinérante intitulée « Fenêtres sous les couloirs de la mort ». Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur leur site à eux, windowsondeathrow.com.
Eh bien, merci beaucoup pour tout cela. Alors, on se voit de vous. Merci à vous, donc, Joséphine Maillefer. Merci à vous, Noémie Arnold, pour cette exposition à découvrir jusqu'au 12 avril. On va continuer dans cette thématique art et prison, vaste sujet, notamment dans la musique populaire. On s'y intéresse dans la seconde partie de Nectar jusqu'à 13h. Ne quittez pas.
Atlantique, le magazine musical d'Espace 2 voit grand.
On fait tourner la map monde et chaque année, les Australiens célèbrent la culture indigène.
Une heure et demie de direct proposée par Yves Bron, Ania Léveillé et Angelo pour aller à la rencontre de la scène musicale suisse. Du classique au jazz, des musiques métissées aux sonorités contemporaines. Reportages, débats, chroniques, avec en prime chaque fin de semaine des concerts en public et en direct.
La culture est un nid de substances illicites.
Magnétique, la musique au pluriel, du lundi au vendredi de 17h à 18h30.
Plus d'infos sur espace2.ch. Big Task.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a-moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Folsom Prison Blues, enregistré le 13 janvier 1968 en concert dans la prison californienne de Folsom, cette même prison dont il parle dans cette chanson, Johnny Cash, chanson qui compte la vie des prisonniers de cet établissement pénitentiaire. C'est la rencontre historique d'un musicien préoccupé par cette question, qui s'est mouillé pour aller à la rencontre du public des prisons et dans ce concert qui existe en intégralité sur disque, Folsom Prison, le concert à Folsom Prison de Johnny Cash. Eh bien, on retrouve notamment une chanson sur la peine de mort qui est absolument extraordinaire, qui vous glace le sang quand on entend aussi les réactions des prisonniers qui réagissent aux propos de Johnny Cash. On a parlé aujourd'hui de ce projet Inmates Voices qui donne voix et qui donne à voir les dessins des prisonniers des couloirs de la mort américains. C'est une démarche qui qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui, et notamment en France également, avec le musicien Vincent Courtois, un violoncelliste de formation classique, mais qui a joué dans toutes sortes de configurations, et qui vient de se lancer dans un projet intitulé Les Démons de Tosca, où il se rend dans des prisons. Il l'a fait notamment à Nîmes récemment, pour travailler des projets musicaux, de rap notamment, et toutes sortes de musiques avec des détenus. Je vous propose ici un extrait de la musique de Vincent Courtois en solo, So Much Water So Close to Home.
Mm-hmm.
So Much Water, So Close to Home, le violoncelle de Vincent Courtois, musicien non seulement très intéressant pour sa musique, mais également pour sa démarche avec ce projet Les Démons de Tosca, avec lequel il crée des ateliers de musique dans les prisons françaises. Si vous voulez en savoir plus, on trouve toutes sortes de renseignements, une sorte de blog aussi sur le site de cet artiste, Vincent Courtois. L'expérience de la prison, c'est évidemment un thème très fort dans les musiques black et dans le blues en particulier, même si certains n'ont pas forcément eu cette expérience de première main. Je crois que c'est le cas de Mississippi Fred McDowell, qui, à ma connaissance, n'a jamais fait de prison, et pourtant, il a chanté dans les années 40 « I'm in jail again ».
On that too. You should have placed a word of this song. So. Bring me a criminal prison, baby. Lord, I'm in jail again. Send it from the workhouse, Lord, to the county pen. Well, Lord, have mercy, baby, on my wicked soul. Kids, so you know I wouldn't mistreat you, baby, honey, for my weight and gold.
tout l'art de la guitare slide de Mississippi Fred McDowell. Ici, I'm in jail again. Je suis à nouveau en prison. On va terminer avec une autre grande plume de la musique américaine, de la musique black, le grand Jill Scott Heron, qui lui associe de manière générale la condition de l'afro-américain à celle d'un prisonnier dans ce titre intitulé The Prisoner.
I need somebody, Lord knows, to listen to me.
Oui, Gilles Scott-Heron, nous avons qu'il a besoin de quelqu'un pour l'écouter. Eh bien, on l'écoute, ce Prisoner. Merci à Fatmi Black Eye pour la réalisation. Merci à Géraldine Ulrich pour l'assistance de production. Demain, dans Nectar, on va vous proposer un entretien avec Bertrand Tavernier à l'occasion de la sortie de son film Voyage à travers le cinéma français. C'est Raphaël Wolf qui l'a rencontré. Je vous souhaite une excellente après-midi à toutes et à tous. Vous écoutez Espace 2, il est 13h. Voici le journal Natacha von Kutzem.